La famille Europe 1, 13h15, 14h, Elena Morin.
Bienvenue à toutes et à tous dans la famille Europe 1, l'émission qui facilite votre quotidien. Aujourd'hui, je vous invite à vivre une jolie aventure, devenir famille d'accueil pour un jeune étudiant étranger ou envoyer votre ado de 14-18 ans découvrir une langue, une culture pendant un an. Dans les deux cas, l'aventure est enrichissante et souvent un socle de vie. Les liens tissés sont souvent forts et j'attends d'ailleurs vos témoignages sur hashtag la famille E1, europe1.fr ou la page Facebook de la famille Europe 1. Alors comment devenir famille d'accueil et à quoi s'engage-t-on? Comment trouver une famille d'accueil pour un ado qui souhaite changer de cadre? Quelles sont les démarches au niveau scolaire? On en parle avec vous et avec Sophie Tarlet, rédactrice en chef du figaro-étudiant.fr. Bonjour Sophie.
Bonjour Elena.
Alors, je me pose la question, quel est l'intérêt pour un ado de partir avant le bac?
Alors d'abord, apprendre une langue étrangère, gagner en maturité, en autonomie et puis aussi découvrir ses points forts.
Alors, parlez-nous de vos expériences et posez vos questions comme celle de Corinne. Comment faire si ça ne fonctionne pas entre la famille et l'étudiant? Eh bien, la réponse de Xavier Bachelot, président de PIE, Programme International d'Échange.
La famille Europe 1, Elena Morin.
Bonjour Xavier.
Bonjour Léna, bonjour à tous.
Alors avant de savoir comment faire quand ça ne fonctionne pas, j'aimerais savoir qui peut devenir une famille d'accueil en fait. Comment choisissez-vous les vôtres? Quelles sont les conditions pour le devenir?
Alors à PIE, on se base sur le principe que dans l'absolu, tout le monde peut être famille d'accueil. Le tout, c'est d'avoir une structure accueillante. Le principe, c'est le bénévolat. C'est le principe premier.
Et pourquoi, c'est le bénévolat?
Parce que le bénévolat, ça garantit une sincérité en fait. Tout simplement. Et c'est le critère le plus important, ce qu'on cherche chez les familles qui soient disponibles, qui soient chaleureuses et prêtes à soutenir le jeune.
J'imagine qu'il faut une chambre disponible pour l'ado ou il peut la partager avec quelqu'un?
Bon, là, il y a des règles assez précises qu'on suit, c'est-à-dire il peut partager s'il faut être dans la même tranche d'âge et bien sûr un jeune du même sexe. Mais au-delà de ça, on contrôle, on va visiter les familles. Il y a un processus également très très précis, c'est-à-dire que on suit tout un tas de règles, mais ce qui est pour nous le critère le plus important, c'est l'envie d'accueillir.
Et la configuration familiale, elle doit être particulière? Est-ce qu'on peut être un couple, une mère célibataire, famille avec des enfants?
Alors, on a évolué, cette PIE a 30 ans d'existence, on a évolué avec le temps, c'est-à-dire il y a 30 ans, les structures familiales n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bien entendu, dans la grande majorité des cas, ça va être des couples avec enfants, parce que c'est la structure familiale encore la plus typée. Mais par exemple, il y a énormément de familles recomposées, il y a beaucoup de familles recomposées. D'accord. Marginalement, on peut avoir des familles sans enfants, auquel cas, par exemple, si c'est une personne seule, une femme seule, il faudra qu'il y ait des enfants ou bien un autre étudiant d'échange. Ça arrive même aujourd'hui, il y a le mariage pour tous, il y a aussi l'accueil pour tous. Ça arrive qu'on ait un jeune qui soit placé, je pense à un jeune, on en a un cette année, qui est placé dans Tucson, Arizona, Marius, qui est placé chez deux hommes. Il vit avec un autre étudiant, etc.
Alors, vous parliez du bénévolat, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'engagement de la famille? Est-ce que l'ado est complètement pris en charge par la famille d'accueil?
Il est totalement pris en charge au niveau de tout ce qu'on appelle, c'est un jargon technique, on appelle le gîte et le couvert, c'est-à-dire ça lui coûte rien d'autre que ses frais annexes. Voilà, mais ça va même quelquefois bien au-delà, parce qu'en fait, vraiment, l'accueil de longue durée basé sur le bénévolat, on dit enfant de la famille, les parents ne calculent pas, ils ne disent pas lui, il me coûte ci, il me coûte ça, ils donnent ce qu'ils ont à donner. Après, il y a des grosses différences, ça dépend du tempérament de chacun, ça dépend du contexte social, mais globalement, ça coûte rien d'autre jeune que son argent de poche, on va dire.
Alors, je vais juste me tourner vers Sophie Tarlet, parce qu'il y a la formule bénévole, mais il y a aussi d'autres formules. Sophie, d'ailleurs, vous en avez fait l'expérience quand vous étiez jeune.
Tout à fait. Moi, mes parents avaient une petite période, un petit revers de fortune, si je puis dire. Et du coup, on avait des chambres de libre, et mes parents, parce que j'avais des frères et sœurs plus âgés qui étaient partis, et ma mère a décidé d'utiliser ces chambres libres pour loger des Américains à l'époque. Donc c'était un organisme qui existe toujours, qui s'appelle France Accommodation and Culture, et qui permettait de loger un, deux ou trois Américains à la maison. On leur offrait le petit déjeuner et deux dîners par semaine.
Pas que vous leur avez appris le French kiss.
Non, parce qu'ils étaient quand même plus âgés que moi. Moi, j'avais avoir une dizaine d'années, eux, ils avaient 20 ans. Mais par contre, ça m'a permis d'apprendre l'anglais, parce que je parlais tous les jours anglais avec eux en rentrant de l'école.
Et j'imagine si c'est des liens fraternels.
Mais oui, et je les adorais, vraiment, c'était tellement sympa. Et ces Américains, vraiment, ça m'a permis. Alors, j'avais un affreux accent américain à la fin, alors que je n'étais jamais partie aux États-Unis. Ouais. Et puis, pour ma mère, bah, c'était l'occasion d'avoir de l'argent qui tombait tous les mois. Et c'était vraiment une expérience formidable.
Elle est restée en contact, vos parents et vous,
oui,
avec
ma mère
famille.
Est restée en contact avec une en particulier, avec qui elle a vraiment beaucoup sympathisé. Ouais. Cette formule, elle existe toujours, il faut le savoir. Si vous voulez loger un étudiant étranger chez vous, alors, si vous avez un logement en centre-ville, hein, c'est en général c'est ce qui est demandé. Il faut compter, vous allez recevoir de l'ordre de 400 à 450 euros par mois. D'accord. Pour le petit déjeuner, et de l'ordre de 1000 euros par mois si vous lui offrez la demi-pension. Donc c'est quand même un sacré coup de pouce financier, et puis c'est un enrichissement culturel.
Ils viennent d'où ces étudiants ados pour la plupart?
Ils viennent des 5 continents et de toutes les sphères linguistiques. Il y en a qui viennent donc d'Afrique du Sud, des États-Unis, je vous l'ai dit, du Canada, du Mexique, d'Australie, du Japon, pas mal d'Asie, de Taïwan, de Thaïlande. Donc voilà, il y a une possibilité de rencontrer, j'allais dire, le monde entier qui vient chez soi.
Et vous cherchez actuellement des familles d'accueil, Xavier ?
Voilà, alors la période où, bon, tout à fait, on en cherche toujours, parce que c'est important de pouvoir aussi adapter. Ce qui va jouer le plus, il n'y a pas de famille idéale, il n'y a pas de jeune idéal, il y a un bon match. C'est-à-dire, il n'y a pas de mot vraiment en français, sinon dire un bon couple, famille jeune. Donc j'allais dire, plus on a de familles qui se proposent et qui sont prêtes à cet accueil bénévole, et ben plus on peut adapter les jeunes aux familles et tenter de réaliser le bon match.
Xavier, je vous propose de rester avec nous pour nous parler des ados qui partent pendant leurs années lycée à l'étranger, des ados français. Quels sont les bénéfices d'une telle aventure? On y revient avec vous et avec Sophie Tarlé. Les réponses juste après cette courte pause.
La famille Europe 1 revient dans un instant. La famille Europe 1. 13h15, 14h, Elena Morna.
Devenir famille d'accueil pour un jeune étudiant étranger ou laisser son ado partir un an à l'étranger pendant ses années lycée, dans les deux cas, une aventure humaine forte. On en parle avec Sophie Tarlé et Xavier Bachelot des programmes internationaux d'échange. Xavier, j'aimerais savoir plus sur les ados qui partent avant même d'avoir leur bac. Quels sont les bénéfices d'une telle année, je veux dire si jeune ?
Très intéressant cette question, parce que le fait de partir entre 15 et 18 ans, c'est très spécifique. Par exemple, nous on le voit, on organise également des séjours universitaires, donc sur un campus pour le cas des États-Unis. Et là, alors c'est très au niveau, j'allais dire, éducatif, on peut chaque système, école ou université, a ses propres intérêts. Mais ce qui est propre à l'accueil 15-18 ans, déjà linguistiquement, c'est la différence est très très nette. Tous les jeunes qu'on va revenir, qu'on a appris entre 15 et 18 ans, ils ont un rapport à la langue qui est tout autre, une oreille qui est haute. D'abord parce qu'ils ont parlé avec des très jeunes, des adolescents, ils ont participé à la vie de tous les jours, les commerçants, les administrations. Ils sont vraiment totalement imprégnés, puis on a une souplesse au niveau de l'acquis linguistique bien plus grande à cet âge-là que plus tard, même à 20 ans. On est dans un contexte de vraie vie. Même un campus, on voit d'autres étudiants étrangers, etc. Mais c'est pas tout à fait le même rapport à la langue. Donc déjà, il y a ça, c'est très important.
Xavier, je voulais savoir quels sont les pays qui attirent le plus nos jeunes Français.
Alors, de point de vue APIE, on constate depuis toujours que
les États-Unis
tiennent toujours la corde. C'est indéniable. Alors, en plus, quand il y a des événements comme les élections américaines, etc., les jeunes sont toujours fascinés par les États-Unis. Mais par exemple, nous, on a énormément de jeunes qui choisissent le Japon. On a des pays où on est très très bien représentés. Il y a l'Afrique du Sud, c'est encore des destinations très en vogue. Après, il y a aussi des effets de mode. Hein, pendant 2-3 ans, on va avoir plus de jeunes à Taïwan, en Allemagne, voilà, ça va dépendre des moments.
L'attrait des mangas, tout ça.
Et donc, les familles ne se voient pas, c'est-à-dire qu'une famille française qui envoie son ado, elle ne le voit pas pendant 10 mois, en gros, c'est ça.
En gros, c'est 10 mois, ça c'est le plus dur, c'est un peu la pilule à faire passer aux parents, mais on leur explique bien que c'est pas leur séjour, c'est celui de leur enfant, donc en fait, il faut qu'ils le vivent à fond. Et c'est souvent des liens entre les familles, par contre, ça c'est aussi réel.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Xavier. Vous nous avez donné envie de partir ou de les envoyer ou d'accueillir. Et je rappelle qu'on mettra vos coordonnées sur la page Facebook de la famille Europe 1. Devenir famille d'accueil pour un étudiant étranger ou proposer à votre ado de vivre dans une famille d'accueil espagnole, américaine, brésilienne, australienne, ça vous tente? Eh bien, restez avec nous. On vous dit justement comment faire. On se retrouve après Sting sur Europe 1. I'm rolling. About You, Sting sur Europe 1.
La famille Europe 1, 13h15, 14h.
Elena Morna.
Vous êtes bien avec la famille Europe 1 et nous parlons justement des familles, celles qui accueillent les jeunes étrangers, les étudiants étrangers, ou celles qui pourraient accueillir le vôtre, celles que vous pourriez également devenir. Sophie de Tarlet vous répond jusqu'à 14h. Nous sommes avec Léonard, 20 ans, qui est parti un an aux États-Unis lorsqu'il avait 15 ans, juste après sa seconde. Bonjour Léonard.
Bonjour Elena, bonjour à toute l'équipe.
Alors c'est vous qui avez décidé de partir si jeune, pourquoi si jeune ?
Je suis décidé de partir si jeune, donc à 15 ans. J'avais passé toute ma scolarité dans le même lycée, avec les mêmes personnes, et j'avais envie de prendre un petit break et de connaître quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience.
Donc vous êtes parti aux États-Unis, alors comment vous avez... c'était où aux États-Unis ?
C'était dans une petite ville balnéaire. À côté de la plage, c'était à peu près à une heure de Philadelphie.
D'accord. Et c'est dans le New Jersey, c'est ça ?
New Jersey, exactement. Ouais.
Wild World Catholic School, j'ai l'affiche sous les yeux, c'est ça ?
Oui, exactement.
Comment vous avez choisi votre famille, du coup ? Comment ça s'est passé pour le choix de la famille ?
Alors en fait, pour le choix de la famille, donc ça c'est l'association qui prend tout en charge par rapport à ma personnalité. Et ensuite, c'est l'école américaine dans laquelle j'ai choisi d'aller qui s'occupe de trouver une famille bénévole. Dans lequel je pourrais aller.
Et alors, et ça s'est bien passé ?
Donc mon premier choix de famille, enfin la première famille dans laquelle je suis tombé, c'était pas vraiment une famille, c'était une femme âgée. Donc elle m'a accueilli, moi et un autre étudiant chinois.
Ouais.
Et ça s'est pas très très bien passé, dans le sens où elle habitait très loin de l'école, donc très loin des autres étudiants de l'école. Donc c'est à partir d'un mois à peu près, j'ai décidé de changer.
Oui.
À cause de cette distance et qu'elle s'occupait pas vraiment de nous, quoi.
D'accord.
Donc j'ai décidé de changer. Et donc là, il y a un ami qui m'a proposé gentiment que sa famille était prête à m'accueillir. Et donc j'ai changé au bout d'un mois et demi.
D'accord. Et là, ça a été la bonne famille. Vous êtes toujours en lien avec elle ?
Ah bah toujours, oui. C'était vraiment une famille donc vraiment américaine. C'était vraiment comme dans le film américain.
Ah oui.
qui accueille, voilà, qui vit avec sa grand-mère. Ça s'est extrêmement bien passé.
Ouais.
Et je suis toujours en contact avec eux. On garde très bon contact.
Ouais.
Je suis retourné une fois l'année dernière et on est toujours en très bon contact.
Ouais. Et alors, comment ça s'est passé au niveau du lycée ? Ça, c'est intéressant. Vous avez donc quitté la seconde.
Ouais.
Vous avez fait un an là-bas. Vous étiez, j'imagine, dans un niveau de seconde. Est-ce que vous disiez à Clara tout à l'heure que vous n'étiez pas si bonne élève en France ?
Ouais.
Et là-bas, vous avez pris confiance en vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Là-bas, donc, c'était vraiment le lycée américain, quoi. C'est avec les casiers, la cloche sonne, on sort de cours.
Ouais.
Donc cette année, ça m'a vraiment donné confiance en moi, ça m'a rendu un peu plus mature. Il faut savoir que c'est un an où on plonge dans l'inconnu, hein.
Ouais.
On connaît personne, personne parle français, personne parle notre langue. Et donc ça m'a vraiment donné une vraie confiance en moi, ce qui m'a permis d'être meilleur en cours les années suivantes.
Ouais, ouais. Et alors justement, je reviens avec Sophie. On parlait de la méthode anglo-saxonne. C'est vrai que ils savent valoriser parfois certains de nos élèves qui sont un peu sur le côté par rapport à l'éducation scolaire française.
Oui, c'est très différent en France, puisque
anglo-saxon. Hein, c'est surtout les anglo-saxons.
Oui, voilà. Surtout, c'est vrai que les Anglais et puis évidemment les Américains, les activités extrascolaires sont énormément mises en valeur, puisque
que c'est un élément capital pour entrer ensuite à l'université. Ouais. C'est-à-dire à l'université, pour le candidat, on va regarder son niveau scolaire, bien sûr, à travers des tests, mais aussi son projet, ses activités. Par exemple, il faut savoir que, alors on parle des États-Unis, mais en Angleterre, par exemple, si vous avez fait du bénévolat, par exemple, pendant un an au sein du lycée, ça va être mis en valeur pour ensuite partir à l'université. Donc c'est ça, c'est un système anglo-saxon qui est pas du tout, c'est à l'inverse de notre système APB, c'est pas du tout pareil. Sur APB, on rentre ses notes et puis c'est tout, ça suffit. Il y a même pas de lettre de motivation souvent pour entrer à l'université.
Alors Léonard, ça m'intéresse. Vous avez pu vous valoriser dans une discipline autre que typiquement scolaire ?
Oui, bien sûr. Je jouais au tennis. Et j'étais dans la première équipe et j'avais gagné plusieurs tournois. Et donc, il y avait une plaque dans l'école maintenant à mon nom.
Waouh, bravo.
Dans l'école.
Dites-moi, Léonard, est-ce que vous avez eu des moments de blues pendant cette année ? Parce qu'il n'y avait pas papa, maman. J'imagine que vous avez peut-être des frères et sœurs. Est-ce que vous avez eu des moments de blues ?
J'ai eu des moments de blues, ouais, mais c'était surtout au début.
Donc, quand vous étiez dans la mauvaise famille ?
Quand on était dans la mauvaise famille, c'est surtout le temps de s'habituer. C'est-à-dire, quand on arrive aux États-Unis, on se dit, je vais y passer un an sans voir ma famille. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, on a un petit moment de blues là. Et après, aux fêtes comme Noël, etc., ça, on pense toujours à notre famille, mais... Après, ça passe très vite et on se dit que c'est un an et c'est extraordinaire.
Eh bien, je vous remercie, Léonard, pour ce témoignage. D'autres expériences, notamment celle de Léa, une jeune lycéenne française qui vit en ce moment à Chicago. À tout de suite.
La famille Europe 1
revient dans un instant.
La famille Europe 1, 13h15, 14h.
Elena Morna.
La famille Europe 1 ouvre sa porte aux jeunes étudiants étrangers, ceux qui viennent étudier en France. Troisième pays quand même le plus attractif pour les étudiants étrangers, comment devenir famille d'accueil ou comment trouver celle de votre enfant qui va partir. Sophie de Tarlé du figaroétudiant.fr est avec nous et nous sommes également avec Léa. Bonjour Léa.
Bonjour Elena, bonjour à tous.
Alors vous êtes étudiante aux États-Unis, vous êtes où exactement ?
Alors là, je suis à Chicago, donc à 10 minutes du centre-ville.
Oui.
Et je suis actuellement en train de prendre le transport pour aller au lycée.
Ouais. Bon, pour l'instant, ça fait 2 mois. Comment ça se passe ?
Eh bien, écoutez, c'est vraiment super. Bon, c'est vraiment différent de la France. Sinon, la vie n'est pas si différente que ça. Enfin, je n'ai pas trouvé de grande différence, à part peut-être la nourriture abondante.
Et le système scolaire américain, est-ce que vous le trouvez peut-être plus valorisant que celui des Français ou moins valorisant ? Qu'est-ce qui vous plaît plus ? Qu'est-ce qui vous plaît moins ?
Alors déjà, la possibilité de choisir ses matières. Donc ça, c'est vraiment valorisant pour l'élève parce que si on n'est pas scientifique, littéraire ou économique, on peut choisir une autre direction. Donc ça, je trouve ça vraiment valorisant.
C'est-à-dire qu'au début d'année, on vous dit qu'est-ce que vous voulez faire et vous devez choisir 4-5 disciplines différentes, c'est ça ?
Exactement, vous choisissez vos disciplines, vous pouvez être plus axé sur quelque chose de manuel, enfin, vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez apprendre autant la littérature anglaise que l'option scientifique, enfin, vous choisissez ce que vous voulez. Il n'y a pas du tout un programme scolaire, c'est très, c'est très libre, les cours sont vraiment agréables. Et l'avantage, c'est qu'on finit à 2h30 et après, c'est que du hors scolaire avec le sport. Donc, enfin, je trouve ça vraiment génial d'avoir notre après-midi de libre. Enfin, je trouve que ça change vraiment la perspective scolaire.
Eh bien, je vous souhaite une très belle aventure, Léa. Et puis, au plaisir de vous avoir au téléphone, d'avoir des nouvelles, d'accord ? Sur la page Facebook de la famille Europe 1. D'accord ?
Merci beaucoup.
Merci, Léa. Allez, on va s'intéresser justement aux familles d'accueil. Et comment le devenir ? Ce sera juste après, la belle et douce Vanessa Paradis sur Europe 1.
La famille Europe 1. 13h15, 14h. Elena Morna.
La famille Europe 1 jusqu'à 14h en compagnie de Sophie de Tarlé pour parler des ados qui partent un an à l'étranger pendant leurs années lycée et pour parler également des familles d'accueil. Alors nous sommes justement avec Sandrine. Bonjour Sandrine.
Bonjour Elena, bonjour à tous.
Alors vous êtes devenue famille d'accueil à Paris.
Oui, tout à fait.
Ouais. Pourquoi alors ce choix de devenir famille d'accueil ?
Parce que notre fils avait choisi lui aussi de partir à l'étranger pour un an. Donc,
c'est un système d'échange, c'est ça ?
Non, c'était pas un système d'échange, c'était pas du tout obligatoire, mais c'était une famille bénévole qui accueillait notre fils aux États-Unis. Et on s'est dit que nous, on allait avoir une chambre de libre et que ça ferait faire venir un autre pays à nous que de recevoir une lycéenne. étrangère pendant un an.
Donc vous aviez un fils et vous aviez eu une fille pour le remplacer, entre guillemets, pendant un an.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et sa petite sœur était ravie de changer, d'avoir une grande sœur.
Ah bah oui. Et alors, le choix de l'étudiant s'est fait en fonction de ça, justement. Quels ont été vos critères ?
Alors, nos critères, on a réfléchi en famille avec ma fille de 12 ans. Le critère, on préférait une jeune fille. Et puis, comme on était allé en Thaïlande et qu'on avait adoré ce pays, on a fait venir la Thaïlande à nous et on a accueilli une jeune fille thaïlandaise qui a fait une année en première dans un lycée parisien.
Et comment ça s'est passé, la vie ensemble ?
Mais la vie ensemble, on se découvre, hein. On découvre le pays, on découvre la famille, on change, on évolue aussi. Notre fils a évolué en partant à l'étranger, mais nous aussi, on a évolué, on a appris à découvrir un ado d'un autre pays.
Qui vit chez soi, est-ce que c'est parfois pesant ?
On se prépare et non, c'est pas pesant. C'est quelque chose qu'il faut se préparer.
Il n'y a pas de choc des cultures, par exemple ?
Choc des cultures, étant donné qu'on connaissait un petit peu le pays. Après, si, il y a des choses liées au profil thaïlandais, des gens qui sont plus timides, qui vont moins oser dire ce qu'ils ressentent, ça c'est sûr. Mais la difficulté qu'on avait, c'est qu'elle avait fait qu'un an de français, donc au début, il a fallu qu'on se remette tous en cause.
Le langage des signes, peut-être.
on a utilisé des... Vous voyez, ma fille de 12 ans a eu beaucoup d'idées, on a utilisé les jeux de société pour parler, pour discuter. Elle a mis des post-it sur tous les objets de la maison avec leur nom en
français. C'est mignon, ça. Ouais.
Et donc, oui, tout le monde, ça nous a tous remis en cause.
C'était il y a combien de temps, Sandrine ?
C'était l'année dernière.
L'année dernière. Vous êtes restée en contact avec cette jeune fille, comment elle s'appelle d'ailleurs ?
Farsaï,
on la salue. Vous êtes restée en contact ensemble ?
Bien sûr. C'est impossible de ne pas garder contact. Elle a passé 10 mois avec nous. Elle a fait tout avec nous.
C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que vous nous dites, comme le disait Léonard tout à l'heure, qui est parti pendant un an, vous, votre fils est parti, il a changé. Vous, en accueillant cette jeune fille, vous avez également changé. Donc, balle au centre une fois que vous vous êtes retrouvés. Je voudrais venir avec vous et avec Sophie de Tarlé. Parce que vous êtes bénévole. Quand vous envoyez vos enfants à l'étranger, ça a forcément un coût. Est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte ?
Alors, par l'association que j'avais choisie, le coût était de 12 000 euros.
D'accord, pour toute l'année ?
Pour toute l'année, voyage compris, toutes les interventions comprises.
D'accord.
Mais j'insiste, l'association qu'on avait choisie, il y a un suivi extrêmement précis, extrêmement sérieux. Et vraiment, je ne regrette pas cet investissement pour mon fils, parce que ça a été évidemment une année exceptionnelle et ultra bénéfique. Et puis, en comparaison à des summer camps, vous voyez, il n'y a pas de comparaison possible, parce qu'on paye des fortunes pour un mois. Où je ne pense pas qu'on ait le bénéfice qu'on a pu tirer de cette année scolaire à l'étranger.
Je me tourne vers Sophie pour les coûts.
Oui, il y a plusieurs formules. En fait, tout dépend si vous choisissez un établissement privé ou public. Le prix peut être très variable. Ça peut varier entre 12 000 à 50 000 euros. Tout dépend de l'établissement. Donc, c'est très variable. Sinon, moi, je vous recommande aussi des organismes qui proposent des formules moins chères, comme le Rotary, par exemple. Donc, on part un an dans un pays à l'étranger. Ça peut être au Japon, ça peut être à Singapour, des pays parfois très lointains. Et en même temps, on reçoit un étudiant étranger via toujours le Rotary. Je connais beaucoup de jeunes qui sont partis par ce biais-là. C'est vraiment extraordinaire. On n'est pas obligé d'être membre du Rotary pour en bénéficier. Ah. Et allez sur le site du Rotary et vous trouverez vraiment, c'est très très accessible. Parce que là, pour le coup, on ne paye que quasiment que le voyage. Enfin, c'est vraiment beaucoup moins cher.
Eh bien, merci beaucoup Sandrine. Allez, une courte pause et on se retrouve en famille. La famille Europe 1 avec Roland Pérez.
La famille Europe 1 revient dans un instant.
15, 14 heures, la famille Europe 1.
Ai-je le droit de louer une chambre à un étudiant étranger sans déclarer les revenus ? Alors, ça vaut aussi pour un étudiant français. La réponse de Roland Pérez. Bonjour Roland.
Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors, en fait...
Parce qu'on a vu qu'il y a parfois bénévolat, mais parfois on peut rentabiliser une chambre.
Exactement. Donc, on l'a vu, les enfants sont partis, on dispose d'une chambre qui n'est plus occupée. Et puis, on veut louer cette chambre soit à l'année, soit pendant les 9 mois précisément de l'année étudiant. Si on ne déplace pas un certain plafond, on n'est pas imposable sur ce revenu complémentaire. Alors le montant plafond, on va dire, est pour la région parisienne de 184 euros par mètre carré annuel. Donc ça va jusqu'à à peu près 2562 euros par an pour à peu près 14 mètres carrés.
D'accord.
Donc ça va faire à peu près 250 euros, on va dire, 230 ou 240 euros par mois. Et c'est 135 euros par an pour les autres régions que la région parisienne. Et donc, si on ne dépasse pas ces plafonds, eh bien, les sommes que l'on va percevoir sont nettes d'impôts, on n'a pas à payer d'impôts. En revanche, si on dépasse ces sommes, il va falloir les déclarer dans les bénéfices industriels et commerciaux, ce qu'on appelle les BIC. Et là, vous aurez un abattement de 50%, comme pour les loyers meublés. 50%. Okay.
Ah oui, parce que c'est vrai que c'est meublé.
Voilà. Donc du coup, et vous paierez donc les impôts sur la somme excédentaire, sur 50% de cette somme.
Vous auriez aimé vous partir à l'âge de 14, 15, 16, 17 ans comme
oui,
ça. Mais votre maman ne vous aurait jamais laissé partir,
non, moi,
Esther.
Déjà, lorsqu'elle m'envoyait en camp de vacances comme ça à l'étranger pour quelques semaines, je crois qu'elle...
Elle vous suivait ?
Ben, elle venait, oui, sur place. Elle venait s'installer dans la famille. C'était un peu délicat, vous voyez.
Je crois qu'un jour, on invitera Esther
oui,
pour une émission avec elle.
Avec un psychologue, un bon psychologue, s'il vous plaît.
Sophie Tarlet, juste un point sur d'autres organismes qui éventuellement peuvent aider nos enfants à partir ou nous à accueillir.
Oui, je pensais à l'organisme Nacelle qui est quand même qui est le plus connu en France et qui a une énorme expérience, notamment sur les États-Unis, qui propose d'envoyer aussi des jeunes dans des familles américaines bénévoles. Ouais. C'est en général demander des organismes qui ont une grosse expérience, une ancienneté sur ce marché-là, parce que bon, c'est pas anodin d'envoyer un jeune. Et puis
il y a celle de PIE dont on a parlé aussi au début d'émission, qui envoie bénévolement, donc pour devenir famille d'accueil bénévole dans des familles des bénévoles aussi.
Il y a EF aussi qui est un gros organisme de séjour linguistique. Il y a AVS aussi. Enfin, il y a pas mal d'organismes, mais privilégier l'ancienneté, c'est important.
Merci Roland, merci Sophie de Tarlet. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du figaroétudiant.fr où on retrouve toutes ces infos. Toutes les infos aussi, vous les retrouvez sur la page Facebook de la famille Europe 1 qui est la vôtre. N'hésitez pas à y aller pour suggérer des thèmes sur lesquels vous souhaitez qu'on intervienne ou pour partager vos expériences. Et nous, on se retrouve demain 13h15 pour parler des pensions de réversion. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.